Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Donc, le message d'aujourd'hui sera tiré du psaume 29 au verset 11. Je lis déjà le verset. Que l'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Non seulement son peuple, mais on pourrait l'étendre à tout. Le projet de Dieu était pour toute l'humanité. Mais nous savons qu'il y a le peuple de Dieu, ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Mais il y avait un projet de Dieu qui était pour toute l'humanité. Et donc ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est que alors que nous voyons pour nous-mêmes et pour nos concitoyens, les gens autour de nous, tout le monde mène une course vers le bonheur. On cherche le bonheur, le bien-être, le soi, le moi et de tout ce que je peux encore vouloir et avoir, et donc de non pas pour maintenant amener tous nos messages et notre réflexion pour faire plaisir aux gens, pour leur être agréable, pour annoncer un évangile qui puisse vraiment flatter les gens en disant regardez, venez à l'évangile, vous allez voir comme c'est bien, et mais pour amener simplement la vérité, la réflexion que le bonheur vient du céleste. Tout ce qui peut être bon dans notre vie vient de Dieu. C'est tellement simple, mais plus on y réfléchit, tout ce qui est bon dans notre vie vient de Dieu. Ça ne peut pas venir d'ailleurs, nous, sinon. Et d'un autre côté aussi, par conséquence, tout ce qui n'est pas bon dans notre vie ne vient pas de Dieu, à une autre source. Alors, on peut dire, faisons passer l'idée que le bonheur vient du céleste. Et ce qui est diabolique, il n'importe que déception, frustration, désillusion. Et le titre pour aujourd'hui, c'est le bonheur, c'est une idée divine. C'est une idée de Dieu. Ça n'a pas été inventé plus tard par l'homme. Disant Dieu avait un projet pour moi, mais moi, l'homme, j'ai une meilleure idée de ce qui est bon pour ma vie. Alors, il y a une petite histoire. Alors, il y a quelqu'un qui dit, ah ouais, il n'y a pas à dire, cette semaine, ça va drôlement mieux. La semaine dernière, j'étais abattu. Mais cette semaine, grâce à la prière de mes amis, je peux dire qu'avec le Seigneur, j'ai une pêche d'enfer.
Oula.
Alors, cette idée, la mode a passé un petit peu, on l'emploie un peu moins souvent maintenant. Enfin, j'ai l'impression. Mais l'idée a passé. Vous savez, une fois que la mode a accompli ce qu'elle voulait accomplir, on passe à une autre mode. Vous avez remarqué, ça peut être vestimentaire ou autre chose. Pendant un moment, c'est la mode. Tout le monde qui veut suivre cette mode va faire comme ça, parler comme ça, s'habiller comme ça. Et donc, il y a des modes aussi au niveau de ce qu'on est en train de dire, de la façon de s'exprimer. Il y a des expressions que nous pouvons utiliser. Nos enfants, ça les fait sourire maintenant. C'est, oui, on parlait comme ça, de votre temps, entre guillemets. Et donc, il y a des modes, même des expressions, ou des intonations, ou des raccourcis, ou des nouvelles phrases. La mode de parler tout le temps d'enfer, c'est un peu passé, mais l'idée a passé. C'est ça que je voudrais dire. Même si la mode a passé, l'idée a passé. Et en fait, c'était ça la stratégie, que l'idée puisse bien s'installer dans la mentalité des gens, que dans l'Église, au ciel, il y a un certain ennui. C'est un peu terne, un peu morne, on s'endort un peu. C'est barbant, si vous préférez. Mais en enfer, alors là, vraiment, il se passe quelque chose. Qu'est-ce qu'on s'amuse ? Ça, c'était l'idée qu'il fallait faire passer. Et donc, cette idée, beaucoup, même s'ils ne le réalisent pas de quoi ils parlent, pour eux, au fond d'eux, c'est ce qu'ils ont retenu. C'est que quand on passe une soirée d'enfer, qu'on est sorti en boîte, etc., là, on s'est éclaté, c'est génial, c'est super. Mais quand on parle de quelque chose qui pourrait maintenant nous amener à rencontrer Dieu, le découvrir, apprendre de lui et vivre des choses avec lui, alors là, c'est un peu terne, un peu frustrant, on s'amuse moins. Donc, pour nous, c'est important qu'on puisse combattre cette idée et rétablir ce que le Seigneur avait dès le début prévu. Alors, pour combattre cette idée, comment on peut faire? D'abord, peut-être, il faut changer la réalité. On peut le dire aussi. Changer la réalité, c'est que Si les gens ont eu l'impression des fois que l'Église, on s'ennuie, mais qu'à l'extérieur, on s'amuse, peut-être que c'était aussi une réalité, que l'Église n'était pas toujours le lieu de joie que ça devait être. Puisque la source de la joie, au départ, elle vient de Dieu. Là aussi, c'est une idée de Dieu. Si vous vous rappelez, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. La joie en deuxième position. Hein, bon, ça, pour une liste. En deuxième position, la joie, c'est une idée de Dieu, c'est quelque chose qui vient de Dieu. On parle d'ailleurs dans les expressions, on dit une fausse joie, ça veut dire sur le moment on a un enthousiasme qui tout de suite disparaît. Bien que le terme enthousiasme, on en a déjà parlé aussi. Donc, changer la réalité pour apprendre aux chrétiens à vivre une réalité dans leur relation avec Dieu, qui soit une vie enthousiasmante, qui soit une vie pleine, qui soit une vie où vraiment on peut dire avec Dieu, on a une vie d'aventure, de la foi. Alors on peut changer la réalité, mais nous savons aussi que si on dit sans cesse les choses, on les verra s'accomplir. Si on dit toujours, par exemple, vous parlez de votre église, ou de l'église en général, vous dites, oui, il ne se passe rien, c'est toujours la même chose, c'est comme ça, les gens sont comme ça, etc. Si vous dites ça à longueur d'année, à longueur d'année, à longueur d'année, ce que vous faites, c'est ce que le Seigneur Jésus disait dans Matthieu 18, vous êtes en train de lier sur la terre. Vous empêchez que quoi que ce soit change. Vous êtes en train de tout le temps dire, former par votre parole, l'Église de demain. Donc il est important que si vous avez une idée de ce que l'Église pourrait être, par exemple la Bible nous donne des idées, une Église glorieuse, sans tache ni ride, une Église qui soit le ciel sur la terre, une Église, on peut dire vraiment là, on voit la présence de Dieu. On ressent sa paix, on ressent sa joie, on ressent l'amour qui passe entre les gens. Donc si c'est ça l'idée que vous avez de l'Église, alors c'est ce que vous devez faire, prier, penser et voir pour que nous puissions y arriver. Alors ici, il nous est dit que dans le psaume 29, l'Éternel donne la force à son peuple, l'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. La joie de l'Éternel sera votre force. Si vous voulez voir des gens, le peuple de Dieu qui soit fort, il y a aussi quelque chose à voir avec la relation que nous avons avec Dieu et la façon dont nous pouvons recevoir la joie de l'Éternel. Il faut relever le défi pour qu'on puisse dire l'Église, c'est un endroit où il y a le ciel sur la terre. Alors, premièrement, de pouvoir placer cette vérité que Dieu veut ton bonheur. Dieu veut ton bonheur. Je suis persuadé que nous n'en sommes pas encore assez convaincus à quel point Dieu est intéressé que chaque jour de notre vie soit un jour heureux. Chaque jour. Il n'y a pas des jours comme des fois les gens disent « Bonjour, ça va ?» Oui, comme un lundi. Parce qu'on imagine le lundi, c'est un mauvais jour. Dimanche, c'est un jour de repos, par exemple, jour de famille, jour de ce que vous voulez. Mais le lundi, il faut reprendre le travail, forcément, c'est un jour négatif. Donc, il n'y a pas, sur le calendrier de Dieu, des bons jours et des mauvais jours. S'il y a des mauvais jours, des jours qui sont désagréables pour nous, fatigants ou autre chose, c'est à cause des circonstances, c'est à cause de beaucoup de choses, mais certainement pas de la volonté de Dieu qu'il aurait inscrit à l'avance sur le calendrier, tel jour sera mauvais. La volonté de Dieu est pour nous la priorité, de découvrir qu'est-ce qu'il voulait au départ. Parce que entre ce qu'il voulait et ce qui s'est produit, et la restauration de sa volonté qui sera tout à la fin, il y a tout notre vécu. Donc l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, c'est ça que ça veut dire l'Évangile. Alors la bonne nouvelle, elle est exprimée dans Luc au chapitre 4, versets 18 et 19. Le premier message de Jésus. Imaginez, quelqu'un a souligné cet aspect. Il a dit, Jésus était la parole de Dieu. Pendant 30 ans, il a été fidèle, régulier à sa synagogue tous les samedis et il a écouté des gens qui faisaient des commentaires sur la parole et lui était la parole de Dieu. Il a entendu tous ces rabbins, ces érudits disserter, expliquer la parole de Dieu. Mais il n'a rien dit. Il n'a accompli aucun miracle pendant les 30 premières années. Et il ne nous est pas dit qu'il était un enseignant, qu'il était tout de suite, il a pris une position. Son heure n'était pas encore d'exercer son ministère. Et il a attendu tout ce temps. Et on peut dire c'est comme maintenant un barrage d'eau. L'eau s'était retenue. Et maintenant, le jour vient, le grand jour où il allait se révéler. Et il prononce son premier sermon. La première fois qu'il prend la parole pour déclarer quelque chose. Et il commence son ministère et il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » C'est son premier message et il nous enseigne énormément de choses au travers de ces quelques phrases tout de suite. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il fait référence au passage prophétique où Ésaïe avait dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint ». Il reprend ce passage et dit « Je suis la parole de Dieu, je suis celui qui l'accomplit, je suis l'envoyé de Dieu, j'ai la capacité, l'onction c'est la manifestation de la puissance de Dieu, j'ai la capacité de changer les choses ». C'est ça qu'il dit. « J'annonce de bonnes nouvelles aux pauvres ». Quelle est la bonne nouvelle aux pauvres? Si vous dites aux pauvres, tu es pauvre, tu vas rester pauvre. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Il a besoin d'une bonne nouvelle. La bonne nouvelle pour le pauvre, tu n'as plus besoin de rester dans ton état. Quelque chose est en train de changer. Moi, Jésus, je suis venu pour changer. Comprenez? Il n'est pas venu pour que le statu quo reste ainsi, pour que les choses ne bougent pas. Mais au contraire, à un autre moment, on définit le ministère de Jésus. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Le diable avait déjà fait assez de dégâts comme ça. Il est venu pour détruire ses œuvres et pour rétablir certaines choses. Donc, il a reçu la capacité pour la bonne nouvelle aux pauvres en disant « Maintenant, il y a un jour nouveau ». Il l'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé, c'est pas juste comme les chansons populaires, romantiques, j'ai le cœur brisé, elle m'a quitté, etc. Et le cœur brisé, c'est quelqu'un qui a une souffrance, quelque chose est cassé en lui, et Jésus a dit, je suis venu pour réparer cela, pour refaire quelque chose. Et le cœur brisé, c'est aussi, on peut avoir le cœur brisé parce qu'on se rend compte du mal qu'on a fait. Ça parle d'un changement de mentalité qui s'opère parce qu'on s'est rendu compte du mal qu'on a pu faire et on en a le cœur brisé. C'est une bonne chose des fois d'avoir le cœur brisé. Ça montre que le cœur n'est pas dur. Et proclamer aux captifs la délivrance. Là encore, c'est une bonne nouvelle. Pour les captifs, il y a une délivrance. Aux aveugles, le recouvrement de la vue. C'est pas juste... Va en paix, tout ira bien pour toi. Renvoyer libres les opprimés et publier une année de grâce du Seigneur. L'année de grâce, c'était une chose merveilleuse que Dieu avait prévue. Cette année, 7 ans, c'était un cycle. 6 années de travail et ensuite 1 an, on laisse reposer la terre. Et quand on a fait 7 fois 7, venait le jubilé, les 50 années. Et là, normalement, la parole de Dieu prévoyait qu'il y ait tellement d'abondance des années d'avant qu'on pouvait encore une fois faire une année de repos total et que la terre produirait suffisamment. Et ce cycle de bénédiction de Dieu n'a jamais eu lieu. Il ne s'est jamais mis en route. Il n'a jamais eu lieu, pas une seule fois dans l'histoire. Pourtant, c'était la volonté de Dieu. Et donc, les gens se posent beaucoup de questions sur la volonté de Dieu. Si Dieu existe, pourquoi ceci, pourquoi cela ? Sa volonté pour l'homme est là, mais beaucoup de choses n'ont jamais eu lieu. Mais par contre, ce que les auditeurs savaient, ceux qui ont entendu Jésus dire cela, publier une année de grâce, ils savaient ce que ça voulait dire. Pour eux, ça voulait dire, tout le monde était libre, les gens qui avaient des dettes étaient libres, pouvaient commencer une vie nouvelle, il y avait tout un renouvellement. Donc quand il annonce ça, il dit, maintenant il y a un changement. Donc ce que nous voulons retenir... Quand l'onction est là, la manifestation de la puissance de Dieu est là pour combler nos faiblesses, nos manques. Puisque l'onction est là, l'Esprit du Seigneur est sur moi, la puissance de Dieu est là pour combler notre faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9 à 10, il nous est dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Dans la faiblesse. Cette phrase n'est pas destinée à dire « bon, nous sommes faibles, on est tous faibles, on va rester faibles, mais heureusement il y a la grâce de Dieu et donc on compte sur Dieu ». Mais on compte sur Dieu pour quoi faire ? Pas juste pour supporter notre vie telle qu'elle est, mais pour la changer. C'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est en vue d'amener un changement. Comprenez ça ? Dieu est le Dieu des changements. Il n'est pas statique, il n'est pas figé, il n'est pas rigide. Il y a constamment des choses qui se passent. Regardez la création. Dans toutes les fleurs, de toutes les plantes, dans tous les oiseaux, dans tous les animaux, il y a une telle diversité, ça nous montre quelque chose de la perfection invisible de Dieu, qui est infiniment en train de faire des choses nouvelles sans cesse et avec une capacité de création. Donc dans ma vie aussi, quand j'ai une faiblesse, quand j'ai une difficulté, la grâce de Dieu, elle est suffisante. Ça veut dire la faveur de Dieu me permet d'accomplir des choses qui vont me sortir de cette situation. L'apôtre Paul dit « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. » C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, les calamités, les persécutions, les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il n'est pas dit, quand je suis faible, alors je reste faible. Mais quand je vois ma faiblesse, j'y vois une occasion que la puissance de Dieu se manifeste. Donc, si tu as un besoin, il y a une provision. Comme j'aime à le dire, Dieu n'est jamais surpris par aucune situation que nous pouvons vivre. Et il ne dit pas, voilà quelque chose qui me surprend totalement. Je n'avais pas pensé à ça. Comment on va remédier à ce problème? Au contraire, quand il y a un problème, il y a déjà une provision de la part de Dieu. Et ça, tous les jours. Le psaume 23, 6, il nous est dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Il n'y a pas un jour excepté. Le bonheur et la grâce, la faveur de Dieu, sont mes compagnons pour tous les jours. Donc la proposition, l'idée, c'est que Dieu veut qu'aujourd'hui soit une belle journée pour moi. Vous pouvez le dire à votre voisin. Dieu veut qu'aujourd'hui soit une belle journée pour toi. Rappelez-vous 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme, n'est pas seulement un vœu de la Bible qu'on peut associer au nouvel an, on s'écrit une carte, bonne année et bonne santé, mais que c'est un désir continuel. Si vous avez des gens que vous aimez, de votre famille, de vos proches, normalement, vous désirez quelque chose de bon pour chaque jour de leur vie. Vous n'allez pas dire, aujourd'hui, j'aimerais que tu passes vraiment une mauvaise journée. Non, parce que ce serait idiot. Alors, des fois, je me rends compte qu'on ne réfléchit pas assez à ce qui se passe dans notre tête et on n'est pas assez conscient de cette volonté. Si vous ne parlez pas à Dieu aujourd'hui, si vous ne priez pas, si vous ne pensez pas à lui, mais imaginez que de son côté, vous aurez eu toute son attention pendant 24 heures. Imaginez, toute son attention. Parce que je sais que c'est difficile pour nous. Nous, on pense que s'il a une minute pour nous, c'est bien gentil de sa part. Il doit avoir tellement de choses à faire. Mais le miracle, c'est qu'il peut s'occuper de milliards de personnes en même temps. Mais donc, vous avez toute son attention toute cette journée. Mais en même temps, pour établir le contact, il faut que vous puissiez aussi penser à lui parler, lui permettre d'agir. Mais donc, pensons que 3 Jean 2, je souhaite, je désire, je veux, exprime pour nous aussi le désir de Dieu. Et on peut le dire aux gens autour de nous. Dieu n'est pas fâché avec toi. Il ne t'en veut pas. Vous savez que la colère de Dieu a été mise sur Jésus. Pour lui, la question est réglée, une fois pour toutes. L'apôtre Paul disait dans 2 Corinthiens qu'en réalité, nous faisons les fonctions d'ambassadeurs de Dieu pour Christ. Et nous disons, vous êtes réconciliés avec Dieu. Le message des ambassadeurs, c'est pas Dieu est fâché avec vous, il va vous déclarer la guerre. Le message des ambassadeurs, c'est de dire, vous êtes en paix avec le royaume de Dieu parce que quelqu'un a payé pour vous. Donc la proposition, c'est que Dieu veut aujourd'hui une belle journée pour moi. Et le psaume 36, vous êtes encore dans les psaumes, vous n'êtes pas loin pour tourner. Le psaume 36, il est dit au verset 27, qu'ils aient de l'allégresse et de la joie ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent, voilà ce qu'il faut dire sans cesse. Exalté soit l'Éternel qui veut la paix de son serviteur. Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. Exalté soit l'Éternel qui veut la paix de son serviteur. Une autre version dit « Exalté soit l'Éternel qui veut la prospérité de son serviteur ». 3 Jean 2 dit « Je veux que tu prospères à tous égards ». Parce que paix et prospérité vont de pair. Et dans l'hébreu, c'est « shalom ». C'est shalom. Jésus est le prince de la paix, le prince du shalom. Il apporte aux hommes le shalom, ça veut dire l'état d'être de nouveau restauré tout entier. Prospérer, ça veut dire aller toujours mieux pour avoir les besoins qui soient pourvus. Ainsi, il peut y avoir des gens qui sont riches de comptes en banque et qui sont pauvres pour beaucoup d'autres choses. On peut donc dire que ça, ce ne sont pas des gens qui sont en train de prospérer. Il n'y a qu'une petite partie de leur vie qui prospère. Et nous sommes plus que ça. Alors, voyons un peu plus loin. Nous savons, nous avons entendu dans les évangiles que Dieu veut donner de bonnes choses à ceux qui les demandent. Alors là, pas seulement penser choses. Quand on pense une chose, nous, on pense souvent objet, un objet. Quand je dis c'est une chose, on pense à un objet. Mais les choses, c'est beaucoup plus global que simplement penser des objets ou des choses matérielles qu'on peut visualiser, qu'on peut toucher. Vous avez des choses en vous. Vous avez des besoins dans votre âme. Et Philippiens 4, au verset 8, nous dit « Aux frères, aux restes frères, que tout ce qui… » Voilà les choses qui doivent être en vous. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, que ce soit ces choses qui sont en vous. Et ici il est dit, que ce soit l'objet de vos pensées. Quand c'est l'objet de vos pensées, vous êtes en fait en train de construire dans votre tête, dans votre mental, une image de vous, de votre monde, et de à quoi il va ressembler. Quelles sont ces choses que vous allez recevoir de Dieu? Demandez-lui ces choses. Demandez-lui, non pas de « Seigneur, aide-moi à lutter contre la mauvaise pensée ». Non, la façon la plus simple de chasser les ténèbres, c'est d'allumer la lumière. On n'essaye pas dans une pièce sombre de sortir les ténèbres pour pouvoir y mettre de la lumière. C'est quand la lumière vient, les ténèbres s'en vont. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas compliqué pour nous. Nous, on a l'électricité, on a des ampoules, on peut allumer. Et dans le spirituel, c'est les mêmes choses qui se passent. Les gens sont tellement focalisés sur les choses négatives, sur ce qui va pas, et pour les chrétiens qui veulent être spirituels, sur la façon dont ils devraient penser, agir, etc. Et donc, on est tellement focalisé sur ce qu'on ne devrait pas faire, qu'on ne laisse pas rentrer en nous ce qui est vrai, ce qui est honorable, juste, pur, aimable, ce qui mérite l'approbation. C'est ces choses qui doivent demeurer en nous. Laissez-vous remplir de ces pensées. Comment faire? Ben, en réfléchissant, en méditant. Les gens ont des modèles des fois. Les jeunes peuvent avoir des modèles dans la chanson, le cinéma, le sport et d'autres choses. Nous devrions aussi avoir nos modèles. Nous avons ici assez de modèles pour pouvoir piocher. J'aimerais être comme lui, comme elle, etc. Et bien sûr, le modèle par excellence, c'est Jésus dans son comportement, dans son attitude, dans sa façon. Donc, créez-vous votre image de qui vous allez être, le nouveau vous en Christ. De bonnes choses. Donc les propositions que je vous fais, testez ce qui vous préoccupe, ce que vous désirez et approchez-vous de lui en disant « j'aimerais aussi ». Vous voyez quelqu'un qui a un trait de caractère que vous n'avez pas par exemple. Ça ne veut pas dire que vous devez absolument lui ressembler, mais vous pouvez dire « j'aimerais avoir la patience de un tel ». J'aimerais avoir la joie de vivre de tel autre. J'aimerais pouvoir connaître la paix que telle autre personne connaît. Voyez, comme ça vous êtes en train de recréer votre personne et de laisser Dieu peu à peu corriger ce qui doit être corrigé. C'est dans ce cadre aussi que je voudrais citer Hébreux 4:16. Approchons-nous donc avec assurance de le trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Pas seulement besoin quand je suis dans la détresse, Seigneur, je viens au trône de la grâce parce que quelqu'un est malade ou parce que j'ai plus d'argent pour payer la facture ou parce que j'ai un grave problème de relation ou parce… Vous comprenez? On attend trop pour être dans une détresse et ensuite notre foi est faible et on ne s'approche pas avec assurance. Alors que si on anticipe et on vient à Dieu tout le temps, en fait, il faut tout le temps le, entre guillemets, déranger. pour lui permettre d'agir de plus en plus. Et alors on vit avec Dieu pour les petites choses. Comme dernièrement, on s'est encore exhorté en famille. On a dit, oui, ben des fois quand on veut faire des courses, de penser à prier pour trouver une place de stationnement, de parking, ou ne pas être obligé de faire 36 magasins pour trouver l'objet qu'on veut acheter, ou des tas de possibilités sont là devant nous. Donc, pas seulement attendre une situation de détresse. 1 Timothée 6,8 nous dit « Si nous donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » D'accord ? Alors, j'ai l'impression que ce verset a figé tout un pan de la chrétienté dans des espèces de religiosité et de « Si la nourriture et le vêtement devaient suffire pour que les gens sont dans la joie, je parle de cette partie du monde, il y aurait beaucoup de joie dans l'Église de Jésus-Christ, en France par exemple. » D'accord ? Je ne parle pas de la réalité de ce que certains peuvent vivre. Je pense par exemple à des gens en Afrique ou en Inde ou ailleurs, où il y a des personnes qui vont mourir de faim aujourd'hui même. Mais je parle de ceux qui normalement sont pourvus pour la nourriture et le vêtement. Si on s'en tient à ce verset, vous comprenez ma démonstration ? C'est que si on dit nourriture et vêtements, ça me suffit, alors je suis satisfait. Alors tout le monde serait satisfait et tout le monde serait dans la joie. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'autres choses, entre guillemets, qui nous manquent. Ce que l'apôtre Paul voulait dire à Timothée, c'est que nous devons apprendre à vivre dans le contentement. Mais l'idée, ce n'était pas « apprenez à vivre du minimum pour survivre ». Ce n'était pas ça l'idée. L'idée, c'était « veillez à vous-même, à ce qui est en vous. Apprenez à vivre dans le contentement. » Et si c'est peu, vous devez apprendre à vivre dans le contentement. Et dans une autre épître aux Philippiens, il avait écrit « J'ai appris à être content dans l'état dans lequel j'étais. » Soit dans l'abondance, soit dans la disette, mais il avait appris à être satisfait en lui-même. Donc certains pensent aussi que dans ce cadre de la prière et de demander des choses à Dieu, ils pensent que nous sommes constamment dans une sorte de lutte avec Dieu. Il veut nous priver. Et nous, on doit combattre, faire une espèce de bras de fer avec lui pour pouvoir le convaincre de céder et de nous donner quand même. C'est une conception tellement erronée. Alors on peut y aller par de l'insistance, en pleurnichant, en faisant tout ce que vous voulez. Mais nous savons que la seule façon de toucher le cœur de Dieu, c'est au travers de la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, quand Dieu a dit à Adam et Ève, tu ne mangeras pas de cet arbre. Satan est venu avec cette idée. Il veut te priver. Il veut te frustrer. Regarde comme il est. Il veut te priver de la joie de goûter à cet arbre. Et à peu, l'idée s'installe. Tant que j'aurai pas mangé de cet arbre, quelque chose va me manquer, je serai malheureux. Imaginez qu'ils étaient en train de gouverner le monde entier. Ils avaient autorité sur les animaux, tous leurs besoins étaient pourvus, ils n'étaient pas malades, ils avaient la longévité, ils étaient heureux, ils avaient un vis-à-vis, ils avaient la présence de Dieu, et ils pouvaient manger de tous les arbres, sauf un. Et donc l'idée qui a germé dans leur esprit, c'était, si je n'ai pas ça, je vais être malheureux le reste de mon existence. Et nous voyons la même situation se reproduire de gens que nous, on pourrait les envier des fois. On pourrait dire, vraiment, ils ont tout pour être heureux. Regarde, ils ont ceci, cela. On énumère, mais la personne elle-même, dans son abondance de quel que ce soit, il peut être frustré parce qu'il dit, tant que j'ai pas ça, je suis pas content. Prenez par exemple des exemples bibliques de, comment il s'appelait, Aman. Il était le numéro 2 dans le royaume, mais le fait que Mardochée ait refusé de s'agenouiller à son passage, ça l'a complètement perturbé. Juste avant, il avait fait la fête et il avait montré à ses amis, sa femme, tout ce qu'il avait, combien il était important et tout, et il nous a dit que cette seule chose l'a vraiment troublé et ça a précipité sa chute. Donc pour nous aussi, nous devons réaliser que nous ne sommes pas dans une bataille contre un Dieu qui veut nous priver. Jacob avait un combat, il nous a dit, avec l'ange de l'Éternel toute la nuit. « Je ne te laisserai que tu ne m'aies béni. » Il y avait quelque chose de Jacob qui devait céder pour qu'il puisse laisser le nouveau moi en Christ. On peut dire, même si c'était longtemps avec Christ, c'est quand même l'idée que de permettre à Israël de se manifester. À la fin de la nuit, il n'était plus le même. Il a mené un combat. Ça, c'est le vrai combat spirituel. Le vrai combat spirituel, c'est pas d'abord d'être capable de chasser un démon. Chasser un démon, c'est facile. Avec le nom de Jésus, c'est facile. Mais ce qu'il y a en nous, des fois on parle de nos démons intérieurs, c'est une mauvaise expression spirituelle, mais pouvoir mener un combat intérieur et de pouvoir céder, capituler et laisser Dieu prendre le dessus, ça c'est une grande victoire. Alors nous devrions venir à Dieu d'une façon beaucoup plus spontanée et avoir cette prière de dialogue comme quelqu'un parlerait avec son parent. Un enfant, imaginez un enfant et son père. Le père viendrait et dit, alors, qu'est-ce qu'il y a? De quoi tu veux me parler? Et pas, oh Dieu, je viens à toi maintenant. On a tout habillé de façon religieuse, qu'on n'a plus cette spontanéité. Jésus appelait son père Abba. Ça veut dire papa. Cher papa. Il y avait une relation différente. Alors, de quoi tu veux me parler? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Voilà la façon dont Dieu vient à nous, en réalité. On a tellement de choses au cinéma, quand c'est la voix de Dieu, c'est une grosse voix. Mon enfant, maintenant, je te dis. Tout ça nous a déformés. C'est des choses culturelles qui nous ont déformés. Et donc, nous devrions aller à lui. Une fois que nous avons cette conscience qu'il nous a posé ces questions. Je suis là, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Jésus était la volonté de Dieu en action. Quand il disait, que veux-tu que je te fasse? La question était simple à comprendre. L'aveugle répondait que je recouvre la vue. C'était simple. Que veux-tu que je te fasse? Le lépreux disait, que je sois pur. Je le veux, sois pur. C'était simple, c'était pas compliqué. Et donc pour nous aussi, quand il nous pose la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Des fois on sait même pas quoi répondre parce que on n'a pas compris quel est notre besoin. Alors dites-lui. Dites-lui où ça fait mal. Hein, le docteur dit aussi, est-ce que ça fait mal si j'appuie là? C'est la petite plaisanterie. Mais donc, parler, verbaliser, puis écouter. Développer une relation de qualité. La parole de Dieu est vivante, Hébreux 4, 12, et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Jointure et moelle, elle juge les sentiments, les pensées du cœur. Rappelez-vous qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Quand on est dans une relation avec Dieu, on a un dialogue dans la prière, et qu'on pense entendre des choses de Dieu, si on a déjà déterminé à l'avance quelle va être la réponse de Dieu, on n'entendra pas la vraie réponse. C'est là que la parole de Dieu nous permet de trancher. Il nous est dit « En Jésus est le oui à toutes les promesses de Dieu ». Il n'est pas dit « En Jésus est le oui à tous nos désirs insensés ». Il y a une grande différence entre les deux. Il y a des gens qui « Ah, j'aimerais ça ». Et alors ils se précipitent de demander à Dieu et se demandent pourquoi ça ne vient pas. Et puis ils essaient de se convaincre eux-mêmes avec des promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont précises. Il ne va pas nous donner un désir insensé. Il y avait aussi cette réflexion, comment Dieu répond dans la prière? Est-ce qu'il dit oui ou non ou attend? Donc, nous devrions avoir arrivé à une période de notre vie où dans la prière, on n'est plus que la réponse oui. Parce qu'on ne va même plus demander pour des choses qu'on sait à l'avance que Dieu ne veut pas. On ne va pas lui demander, Seigneur, permet que quelqu'un m'offre... de la drogue gratuitement, parce que c'est quand même cher sur le marché. Alors qu'est-ce qu'il dirait? Oui, non, attends, ben, c'est évident que c'est non, c'est même pas la peine. Mais ce qui est grossier et qui nous fait rire, c'est en réalité, c'est aussi ce qui va pas quand on insiste dans un domaine, mais qu'au final, ça nous ferait aucun bien, et Dieu sait à l'avance que ça va nous détruire. Donc il n'y a aucun bien. Il n'y a aucun bien pour, je vais faire un peu de politique et sociale, il n'y a aucun bien à libéraliser l'accès de la drogue pour tout le monde. Aucun bien. Parce que le message qu'on communique, c'est ce n'est pas tellement grave. Si, c'est grave parce que ça, au final, ça vous détruit. C'est quelque chose qui va conduire à la mort. Bien sûr, moi je dis, les gens qui se droguent, c'est déjà assez triste pour eux. On va pas les traiter encore comme des criminels et les poursuivre, etc. Ceux qui fabriquent, ceux qui revendent, etc., c'est pour moi bien plus grave, bien sûr. Mais l'idée, c'est que quelque chose qui est pas bon pour nous, Dieu ne va jamais nous le donner. C'est évident. Mais pourtant, beaucoup de gens perdent beaucoup de temps à insister et à vouloir quand même obtenir, alors qu'il y a tellement plus à côté pour nous, et il nous connaît. Nous sommes tout entiers. On a dit Dieu veut notre bonheur et il nous connaît tout entiers. Nous devons comprendre que nous sommes esprit, âme et corps. 1 Thessaloniciens 5:23 nous dit, je vais le lire, comme ça, ça m'évitera de faire un effort de mémorisation maintenant, et qu'on va le lire exactement, précisément, que le Dieu de paix, tiens, encore la paix, c'est pas juste pour meubler, c'est pas, il a écrit son épître, et s'est dit, bon, si j'ai écrit juste Dieu, ça fera pas bien dans le texte, je vais rajouter le Dieu de paix, c'est un bon attribut. Non, c'est plus que ça, c'est une communication de la part du Saint-Esprit, que le Dieu de paix, paix, shalom, tout entier, vous sanctifie lui-même tout entier. Et que, comme si ça suffisait pas, encore une fois, et que tout votre être, l'esprit, âme et le corps, parce qu'il fallait préciser, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Alors, toujours ce problème de certains qui pensent qu'il faut travailler à la sanctification, d'autres c'est Dieu qui fait tout. C'est au milieu qu'est la vérité. Nous avons notre part, Dieu a sa part. Pas la peine de vouloir faire la sienne, on n'arrivera jamais. Mais si on ne fait rien de nous-mêmes, rien ne se produira. Donc c'est important, ça semblait évident, mais répétons-le, tu n'es pas seulement un esprit. Je ne veux pas dire nous, on est des esprits, on est des êtres spirituels. Mais tous les jours, nous vivons dans un corps. Tous les jours, nous avons notre âme avec nos émotions, nos sentiments qui peuvent être négatifs ou positifs et qui nous perturbent. Donc, soyez conscients de ça. Tu n'es pas seulement une âme non plus. Ou c'est le plus important, c'est comment je me sens ce matin. Est-ce que je suis de bonne humeur ou pas? Et tu ne dois pas ni mépriser ton corps, ni l'idolâtrer. Parce qu'on est, maintenant, une fois de plus, on peut basculer dans les deux extrêmes. La religion, spécialement la doctrine catholique, a méprisé le corps pendant des siècles et continue de le faire. Le péché originel, c'était au niveau de la procréation. Tout a été déformé et ça a été transporté comme ça encore pendant des siècles. Et maintenant, nous arrivons dans un siècle où il y a de nouveau des choses. C'est pas nouveau, mais c'est de nouveau des choses qui apparaissent où on met le corps en avant. Mais c'était déjà chez les Grecs, sauf que les Grecs, ils n'avaient pas la vidéo, ils n'avaient pas l'image. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient des statues. Partout, il y avait des statues de gens qui étaient représentés dans leur nudité. Les athlètes sur le stade, ils n'avaient pas des shorts, ils n'avaient pas des costumes. Ils étaient tout nus parce qu'on idolâtrait le corps. Le corps humain était quelque chose de magnifique et donc on le mettait en avant. La réalité, c'est que Dieu nous a créés tout entiers, esprit, âme et corps, et qu'il a créé de bonnes choses aux trois niveaux. Mais que tout déséquilibre amène quelque chose qui perturbe l'harmonie divine. Et donc le mépris du corps n'est pas bon, l'idolâtrie du corps n'est pas bonne non plus. Il faut avoir la juste perspective de Dieu. Donc le champ de bataille, ça sera toujours dans nos pensées, si on est bien dans sa tête. Les Romains disaient « un esprit saint dans un corps saint », c'était leur slogan. Et saint, santé, c'était pas dans le sainteté, c'était en bonne santé. Mais pour nous, c'est un esprit saint dans un corps saint, ça peut être une autre signification. Parce que nous pouvons recevoir le Saint-Esprit qui met notre esprit à part et notre corps peut être mis à part pour Dieu aussi. Donc c'est l'heure de la décision, c'est chaque matin, chaque jour, des occasions de décision nous sont données. Et maintenant j'aimerais terminer encore en vous donnant 10 commandements pour être heureux. Donc 10 petites réflexions. Et vous vous rendez compte que quand Dieu avait dit « tu ne mangeras pas de l'arbre du jardin », beaucoup de commandements nous paraissent négatifs. Donc tu feras pas ci, tu feras pas ça. Mais là on a des commandements pour être heureux. Quelqu'un a dit, le bonheur, c'est une disposition de l'esprit. Bon, on se rend compte que c'est un peu faible comme déclaration, parce que c'est pas seulement dans notre tête que ça peut se passer. La personne qui a dit ça ne pensait pas esprit dans le sens que nous l'entendons, pensant intellectuel. Donc voilà quelques petits trucs que j'espère qu'ils vont vous aider pour aujourd'hui, pour vous mettre le cœur en fait et vous donner le sourire aux lèvres. Premièrement, on commence toujours par là, pour trouver le chemin du bonheur. Faites la paix avec vous-même. Vous êtes réconcilié avec vous-même aujourd'hui? Peut-être vous étiez fâché avec vous. Donc, vous savez comment ça peut commencer d'être fâché avec soi? Le premier regard dans le miroir, vous pouvez déjà avoir un conflit. Vous n'aimez pas l'image qui est là devant vous. Et donc, peut-être hier, vous aimiez votre image. Ce matin, vous êtes décoiffé, mal rasé, ou je ne sais pas, pour les dames, s'il y a d'autres choses qui ne vont pas. C'est pour ça que les produits de beauté ont encore de beaux jours devant eux, une grande consommation. Mais donc l'essentiel, c'est la considération bienveillante, il faut être bienveillant avec soi-même, que nous accorderons aux premières secondes du matin, disait quelqu'un. Car trop souvent, le regard que nous jetons sur nous-mêmes nous condamne. Est-ce que vous êtes bienveillant avec vous-même ou est-ce que vous êtes dur avec vous-même? Beaucoup de gens sont durs avec soi-même. Alors, je pense que vous serez assez d'accord avec ça. Au lieu de nous focaliser sur nos défauts, nos manques, nos faiblesses, admirons aussi nos qualités et nos richesses. C'est pas pour se flatter, c'est simplement pour reconnaître que Dieu, il a quand même fait des bonnes choses en nous aussi. Alors, c'est idéal pour doper sa confiance en soi et progresser vraiment. Et Jésus avait dit que si on veut bien aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. C'est indispensable. Si vous sentez mal dans votre peau, vous ne serez incapable de communiquer de bons sentiments. Les gens vont ressentir ça. Semez donc, deuxièmement, c'était le premier commandement, faites la paix avec vous-même. Deuxièmement, semez le bonheur autour de vous. Égoïsme et bonheur font rarement bon ménage. Mettez votre énergie au profit des autres, votre famille, amis, mais aussi ceux qui sont bien moins lotis et ont besoin de soutien. Votre vieille voisine, les enfants malades et sans-abri. Donc une proposition, c'est dans Actes 20, 35, « Je vous ai montré de toute manière, disait Paul, que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler des paroles du Seigneur qui a dit lui-même qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Numéro 3, « Acceptez vos humeurs. » Ce matin, vous vous êtes levé du pied gauche, comme on dit. Acceptez ces variations de votre morale comme un phénomène naturel au lieu de vous en préoccuper et de culpabiliser. Il y a des choses, ça va passer tout simplement. Et il se passe des choses aussi en nous, des fois hormonales ou que sais-je encore. Ça, certaines choses vont passer tout seul, mais si vous les entretenez, les nourrissez, ah, j'étais de mauvaise humeur, oh là là. Et puis après, on se culpabilise, et puis en fait, on se gâche une bonne partie du reste de la journée comme ça. Il y a certaines choses qui passeraient et vous en serez moins victime. De la même façon, admettre que vos proches, eux aussi, puissent être de mauvaise humeur, vous aidera à les supporter plus sereinement. Et pensez à Smith Wigglesworth. Il disait, je ne demande jamais comment va Smith Wigglesworth. Et il se posait jamais la question. Et il disait qu'il regardait dans la parole de Dieu et ensuite il disait comment il va. Pensez au psaume 103, verset 2. Apprenez à parler à votre âme. Mon âme bénit l'Éternel. Un peu de grammaire ici. Mon âme bénit est avec un IS. Ça veut dire, c'est la deuxième personne du singulier, et pas la troisième. Il n'est pas en train de dire, mon âme bénit l'Éternel, ça veut dire, elle est en train de bénir l'Éternel. Il parle à son âme et lui dit, bénis l'Éternel. Donc il se parle à lui-même. Intéressant comme comportement. Il se parle à lui-même, sachant parler à notre âme. Il dit, voilà mon âme, comment tu dois maintenant te comporter? T'es de mauvaise humeur? Non, tu vas bénir l'Éternel. Quatrièmement, reconnaissez votre chance. Vous avez une femme, un mari, des enfants, des parents, amis. Vous n'avez peut-être pas tout ça à la fois, mais vous en avez peut-être l'un ou l'autre de toute cette liste. Un travail, un logement, vous êtes en bonne santé. Alors, qu'est-ce que vous voulez de plus? Certains veulent toujours plus, c'est ça le problème. Mais vous pouvez aussi admettre que vous faites partie du clan des vénards. et cessez vos crises d'insatisfaction. Certaines choses, j'ai pris dans des endroits où, qui n'étaient pas spécifiquement de la parole de Dieu, mais je les corrige au fur et à mesure. Il dit « Acceptez votre chance et provoquez-la sans douter d'elle. Vous avancerez à pas de géant. » Et ça, c'est moi qui le rajoute. « Rappelez-vous que ce que le monde appelle la chance, pour nous, ça s'appelle la bénédiction. » Donc, vous enlevez chance et vénard, et vous dites que toutes les choses que vous avez reçues, c'est comme ça que des fois, on chante contre les bienfaits de Dieu. Et donc, on y est dans le psaume 103. On n'est pas encore sorti du psaume 103, verset 2. « Mon âme, bénis l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. » Entretiens-toi des bienfaits de Dieu. Numéro 5, évitez le catastrophisme. Alors, les nouvelles font grise mine. Après un bilan honnête, faites la part des choses. Sont-elles si terribles que ça? Le monde s'écroule-t-il vraiment? Vous constaterez sans doute que non. Je ne veux pas dire que les choses sont simples, et je ne dis pas à la légère. Et il y a des gens dans notre pays aussi qui perdent leur emploi, il y a des choses qui vont pas bien ici et là. Mais imaginez que si, je parle maintenant de la France à l'heure actuelle où je vous parle, si le revenu par habitant baisse d'un quelques petits pourcents, nous nous retrouvons actuellement avec la baisse programmée à un niveau de 2007, nous sommes en 2009. En 2007, la France était toujours un des pays les plus riches du monde. Et il y avait toujours beaucoup de gens dans notre pays qui vivaient bien. Je ne parle pas que tout soit bien réparti, je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui vivent des moments très difficiles, mais ça c'est la vieille idée du monde que les richesses sont mal distribuées et qu'il y a beaucoup qui n'ont pas accès au minimum. Mais les nouvelles ne sont pas toujours exactement ce qu'on veut nous faire croire. Donc nous avons besoin aussi d'analyser nos informations et de voir... les choses telles que je les vois, est-ce que c'est vraiment aussi grave que ça? Et là, je parle des choses très personnelles. Est-ce que mon monde s'écroule? Est-ce qu'il n'y a plus rien qui va tout à coup? Donc, apprenez à relativiser par rapport à d'autres, par rapport à des choses pires, et par rapport au fait que rien n'est impossible à Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? 6. Écoutez les autres. C'est un commandement pour être heureux aujourd'hui. Vous devez apprendre à écouter les autres. L'empathie. Empathie, c'est une faculté de comprendre et de connaître les autres en s'identifiant à eux. C'est un problème actuellement que beaucoup de gens parlent et plus personne ne veut écouter. Mais il est important, c'est une qualité maîtresse qui facilitera vos relations et votre regard sur la vie. Essayez de vous mettre à la place de vos proches, des personnes éloignées que vous trouvez pénibles. Votre patron est énervé? Peut-être son fils a des gros soucis de santé. Vous avez un problème avec le conjoint? Peut-être c'est par rapport à son travail qu'il y a un problème. Vous avez une collègue qui est désagréable? Peut-être c'est parce qu'il pleut depuis 3 jours et que ça lui fait quelque chose au niveau du moral. Il faut apprendre à voir qu'est-ce qui se passe chez les autres. Et ça, vous ne pouvez pas le faire si vous n'êtes pas attentif et si vous n'avez pas écouté. Dans leur vie, est-ce que vous auriez une meilleure attitude? Est-ce que vous seriez aimable? Et donc Jacques 1:10 nous dit « Soyez donc prompt à écouter et lent à parler ». Ne donnons pas tout de suite les réponses toutes faites. Numéro 7, là vous serez d'accord pour être heureux, créez la fête. Le proverbe 15:15 dit « Un cœur content est un festin perpétuel ». Ne nous enfermons pas dans le rythme monotone des journées. Cultivons nos amitiés. Partons à la rencontre des autres. Établissons des liens nouveaux. Vous êtes crevé? Sachez faire simple. Pas de grand dîner avec tralala. Mais ne ratez pas un bon moment. Se priver de présence sous prétexte de se préserver et de dormir, ça fait que vous vous coupez de plus en plus, vous vivez une vie repliée. Mais ça ne vous apporte pas réellement de bénéfices. Votre vie ne doit pas être tout le temps extérieure, mais on est fait pour vivre les uns avec les autres. La vie nous demande d'avancer et non de nous économiser et d'être avares de nous-mêmes. 8e point. Réconciliez-vous avec votre passé. S'accepter, c'est se mettre à jour de son passé. Laisser de côté les ressentiments, vieilles rancunes. On lit avec plaisir les bandes dessinées de, d'Astérix, spécialement chez en Corse, et alors on se rappelle de la dispute des clans corses qui a commencé avec l'arrière-grand-mère et l'histoire de l'âne qu'il n'avait pas payé, etc. Et donc on s'amuse beaucoup de ça. Mais dans le quotidien, c'est exactement toutes ces petites choses dont des fois on ne sait même plus comment ça a commencé et qui maintenant nous semblent ridicules, mais on s'y cramponne. Donc il faut lâcher ces choses, lâcher les ressentiments, vieilles rancunes, accepter ce qui ne peut pas être changé. Le passé est derrière nous, demain on ne sait pas ce qui sera, on a aujourd'hui à vivre. Digérer les histoires familiales, les séparations, les deuils. C'est aussi se réconcilier, c'est aussi régler des situations inachevées. Il y a peut-être des disputes, il y a peut-être des tensions. Il y a une démarche adulte qui est nécessaire pour repartir du bon pied vers le bonheur. Éviter les regrets inutiles et douloureux. Des fois, on le voit peut-être dans des films ou ailleurs. Et quand il y en a un des deux qui est mort et ils n'ont pas eu le temps de se réconcilier. Ils n'ont pas eu le temps de se dire combien ils s'appréciaient, etc. Après, on vit avec des regrets. Ou des fois, il y a des gens qui trouvent très important d'avoir encore pu faire une dernière visite à quelqu'un qui allait décéder, de pouvoir encore une fois se parler. Ça peut être brutal, le décès de quelqu'un par accident, s'il n'attendait pas, on vous annonce que voilà, il n'est plus. Ce matin, il était encore, maintenant, il n'y est plus. Et donc, il peut y avoir des choses très difficiles, mais quand on peut, réglons des situations qui étaient inachevées. Et la Bible nous dit 2 Corinthiens 5, 17, les choses anciennes sont passées, en Christ toutes choses deviennent nouvelles. Et aussi Marc 11, 25, on connaît Marc 11, 22, ayez la foi de Dieu, Marc 11, 23, ce que vous dites s'accomplira, Marc 11, 24, ce que vous demandez dans la prière, mais Marc 11, 25 nous dit, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, alors pardonnez. Et un complément dans un autre évangile nous dit, et aussi, si vous savez que quelqu'un a quelque chose contre vous, alors vous pouvez aussi aller demander pardon. Des fois, il y a une démarche à faire. On y est presque. Numéro 9, s'adresse un peu moins aux chrétiens, normalement. Trouvez un sens à votre vie. Nous avons déjà trouvé un sens en Jésus, c'est vrai. Qui suis-je? Pourquoi suis-je en vie? Si vous avez des réponses à ces questions existentielles, vous êtes sur le chemin de la réalisation de vous-même. Sinon, que diriez-vous de réfléchir un peu à vos valeurs personnelles, travail, amour, famille, ordre, liberté, pour préparer vos objectifs et vous employer à les réaliser. La vie a besoin d'avoir un sens, un but. Nous en avons un en Christ, mais les chrétiens ne sont pas les gens les plus heureux sur terre. C'est les chrétiens qui savent la place que Dieu leur donne. Dans son royaume et qui ont un sens, qui ont un but, ils veulent réaliser quelque chose réellement. Et le numéro 10, c'est préserver votre liberté. Pour se sentir bien avec les autres, il ne faut pas se laisser enfermer par leurs désirs, mais savoir leur dire non. Exprimez vos sentiments, exprimez les envies, les besoins. Sinon la frustration s'accumule et nuit à l'épanouissement. Ne craignez pas non plus leur jugement. Choisissez seul, tout le monde dit seul, seul, librement ce que vous voulez faire et ne pas faire. Refusez de vous laisser manipuler. Vous ne serez pas heureux si c'est quelqu'un d'autre qui décide de ce que sera votre journée. Même s'il y a des choses agréables qui se passent dans la journée, vous comprenez? Mais vous avez besoin d'être parfaitement participant à la décision. C'est ainsi que quelqu'un peut avoir une très bonne idée de ce que vous pourrez faire aujourd'hui, mais que même si c'est une bonne chose apparemment, ça ne sera peut-être pas vraiment ce que vous aurez désiré au fond de vous-même. Donc c'est important de réaliser que ça c'est quelque chose qui est merveilleux de réaliser avec Dieu, c'est qu'il nous garantit une vraie liberté. Jean 8, celui que le Fils a franchi est réellement libre. Et l'apôtre Paul donnait ce complément. Dans 1 Corinthiens 8, il avait découvert quelque chose. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc nous ne disons pas, moi je ne fais pas ça parce que ma religion me l'interdit. Je ne fais pas ça parce que, bien que tout m'est permis, tout m'appartient, en Christ je peux triompher de n'importe quoi. Je choisis, avec l'aide de Dieu, je choisis ce qui est bon pour moi, ce qui m'édifie, ce qui me fait du bien. Et notre conclusion sera dans 1 Thessaloniciens 5, Et pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que je mets toujours l'accent là-dessus. Au verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Et je vous lis aussi le 16 et le 17, encore une fois. L'apôtre Paul disait « Soyez toujours joyeux, toujours », ça veut dire « aujourd'hui aussi ». Priez sans cesse, ça veut dire aujourd'hui, ayez une vie de prière avec Dieu. Et 18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Je pense donc que l'action de grâce n'est pas le seul aspect de la volonté, mais aussi soyez toujours joyeux et priez sans cesse en fait partie. Donc faisons cela ensemble. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.